cet ouvrage, il pose beaucoup de questions, il apporte des réponses. Maintenant, bien entendu, il y a des réformes qui vont évoluer, qui évolueront en fonction des différentes échéances électorales aussi. Hein, parce qu'il est évident que les élections présidentielles, puis législatives qui suivront, peuvent avoir un effet sur les réformes. Est-ce qu'il y aura des remises en cause de ce qui est prévu ou pas? Tout dépendra, puisqu'on entend dans le cadre des campagnes qui commencent à être lancées certaines propositions de réformes, et notamment la question du cumul des mandats, qui là pourrait bien sûr changer la donne. Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, et qui permet de faire un point, c'est que tous les universitaires aboutissent à la conclusion selon laquelle il y a une reprise en main par l'État. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est incontestable. On assiste à une recentralisation, une renationalisation. Alors, ce retour en force de l'État est expliqué par deux arguments principalement. Le premier, c'est la sécurité, le besoin de sécurité, qui explique que l'État, qui bien sûr est le seul à monopoliser les fonctions régaliennes, fasse un retour en force. Donc il y a bien sûr cet argument lié à la sécurité, qui est plus récent que le deuxième argument, mais qui actuellement prend le dessus. Et l'autre argument, qui existait déjà dès 2014, même avant d'ailleurs, c'est l'argument par contre économique, qui explique que financièrement, la France rencontre de nombreuses difficultés. Il y a un endettement chronique de l'État, surtout, la sécurité sociale, bien sûr, mais aussi, même si leur gestion est beaucoup plus saine, les collectivités territoriales rencontrent des difficultés financières, puisque comme l'État a moins, il donne moins aux collectivités, et donc les collectivités, elles, ont moins. Certaines augmentent les impôts, mais normalement, on fait attention de ne pas trop les augmenter non plus, parce que sinon les gens ne peuvent plus vivre, donc c'est contre-productif. Donc il y a ces raisons qui expliquent ce retour en force de l'État. Donc ça, c'est pour l'État. L'État, donc, recompose son territoire. Comment ? Sa volonté, c'est l'idée, et ça c'est l'influence européenne, qu'il est nécessaire d'avoir des grandes régions. Des grandes régions et donc des régions moins nombreuses. Et donc, ils ont fusionné des régions. Alors, est-ce que cet argument qui est officiellement avancé, il est toujours aussi pertinent ? On s'interroge. Parce que parmi les régions qui ont été constituées, certaines représentent le territoire, par exemple, de l'Autriche. Donc là, c'est plus que le périmètre de la même échelle que des régions ailleurs. Également, ce n'est pas forcément pertinent de dire qu'il faut avoir des grandes régions dans un État, sachant qu'en France, nous avons un État unitaire, certes décentralisé, mais un État unitaire. Et nous, les régions, ne sont que des collectivités territoriales. Quand je dis ne sont que des collectivités territoriales, c'est pour dire qu'elles n'ont pas de pouvoir législatif. Et encore moins de pouvoir constituant. Or, lorsque l'on dit qu'il faut avoir des grandes régions, comme par exemple en Allemagne. En fait, en Allemagne, lorsqu'on parle des régions, on vise les Länder. Or, attention, ce ne sont pas des collectivités territoriales. Ce sont de véritables États, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre constitution, et donc bien sûr un pouvoir législatif. Bien sûr, au-dessus d'eux, il y a un État qui se superpose, ce qu'on appelle la fédération, mais ces régions-là, ce sont des États fédérés et non pas des collectivités territoriales. Donc ici, comparaison n'est pas raison. Alors ça, s'agissant des régions, il faut des grosses régions. Bon. On a donc l'État a regroupé les régions, comme vous le savez, et leur a donné plus de moyens. Mais on leur donne plus de moyens et plus de compétences. Pour autant, ces régions sont, et c'est indiqué dans un des articles qui a été écrit par une collègue, ces régions sont des colosses au pied d'argile. D'une part, parce qu'ils ont beaucoup de compétences, mais ils n'ont pas vraiment les moyens de les mettre en œuvre. Parce qu'ils n'ont pas notamment de pouvoir législatif. Ils n'auront qu'un pouvoir réglementaire d'exécution. Également et surtout, les régions vont être concurrencées par les métropoles. Par exemple, dans notre grande région Occitanie, ben, vous avez la métropole toulousaine qui va bien sûr concurrencer cette région. Également, vous avez ailleurs des communautés urbaines très importantes. Donc, la région va être en fait concurrencée par la métropole qui n'est qu'une intercommunalité. Le département, lui, il a été maintenu dernièrement, mais ne l'oublions pas, dans le projet, il était prévu par le gouvernement de les supprimer, les départements. Ils n'ont été maintenus que grâce au cumul vertical et au poids des sénateurs qui ont voulu maintenir cette collectivité territoriale, et également tout simplement parce que les autres collectivités territoriales, comme la région, ne veulent pas récupérer la compétence sociale, parce qu'elle est très chère, elle est coûteuse. Donc il y a des raisons aussi. En fait, personne n'en voulait. Donc le département, il a été maintenu, et d'ailleurs, il continue à exercer ce qu'on appelle la compétence sociale et la solidarité, notamment territoriale. Et dernièrement, il y a eu un débat, puisque les départements, enfin les représentants des départements se plaignent de devoir assumer justement cette compétence sociale. Et l'État a semblé accepter de renationaliser la compétence, c'est-à-dire de la reprendre. Mais les départements, et ça c'est très bien expliqué dans un des articles d'une collègue de Toulon, les départements, les représentants de départements n'en ont pas voulu. Pourquoi ? Parce que s'ils perdent la compétence sociale, ils perdent le cœur de leur activité. Et donc, s'ils n'ont plus cette compétence à exercer, ils savent qu'ils sont condamnés lors des prochaines échéances. Ensuite, il y a les communes. Alors, les communes, on leur a maintenu leur clause de compétence générale, alors qu'on l'a supprimée aux départements et aux régions. Ça veut dire que départements et régions ne peuvent intervenir que dans une liste de compétences fixées. Mais les communes, on leur a maintenu leur clause de compétence générale, mais c'est une coquille vide. Pourquoi c'est une coquille vide ? Parce que la plupart des compétences sont transférées à des intercommunalités. Communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole même. Donc en fait, elles ont de moins en moins de compétences à exercer. Pourquoi ? Parce que ce sont surtout les intercommunalités qui sont les grands gagnants des dernières réformes. Régions, mais les régions bien sûr le sont aussi, mais elles sont fragilisées, et les intercommunalités. Alors que parmi les intercommunalités, il n'y a pas le suffrage universel direct. Il y a un système de fléchage depuis les élections de mars 2014. Mais ce n'est pas une élection de suffrage universel direct. Pourtant, ils lèvent les impôts. Nous l'avons bien vu ici, et bientôt on va le sentir avec les feuilles d'impôts qui vont arriver. Donc, ces intercommunalités ont encore plus de moyens, encore plus de pouvoir, et pourtant, le contrôle démocratique, à mon sens, n'est pas suffisamment efficace. Donc voilà ce que l'on peut dire sur l'ensemble des réformes. Et bien entendu, après, il faut aller plus loin. Je ne souhaite pas, bien entendu, déplorer le contenu de tous les auteurs et de leurs articles. Mais voici, brossé à grands traits, le tableau de ce que l'on peut trouver dans cet ouvrage.